Cube Radio.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à un autre épisode des Antipodes Extra. Pat Laprade, K.R., Kevin Raphaël avec vous.
Survivor Series.
C'est une toune? Je pensais que tu allais faire la toune de Rocky Survivor.
Survivor Series 97. On était là?
On était là.
J'avais 5 ans.
Mais tu n'avais
44.
Tu fais pas d'introduction. Toi, tu sais pas où on peut nous écouter. Toi, tu passes ça.
Mais non, mais c'est l'extra, là. S'ils l'écoutent,
tu passes ça comme un match. Tu passes ça comme un match Sasha Banks, Shayna Baszler.
Je passe ça comme un match dans le Raw Underground, là. Je fais juste monter sur le ring, puis je sais pas ce que je fais.
Hey, on était là. Toi, t'avais quel âge?
5 ans. J'avais 5 ans.
T'avais 5 ans. Moi, j'avais, mon Dieu, j'avais 20 ans.
Moi, mes parents avaient, mais ma mère, parce que je suis allé avec ma mère et ma grand-mère.
Oui.
On était vraiment pauvres. Ils avaient économisé pendant vraiment longtemps pour qu'on puisse aller à Smash. On avait des très bons billets en plus.
Moi, sais-tu?
Je me suis cherché, je me suis pas trouvé, mais quand même.
Moi, j'étais assis, comme mettons en arrière d'un début.
OK.
J'avais l'entrée face à moi. Fait que j'étais dans les rouges. À peu près dans le milieu des rouges en arrière d'un début face à, tu sais, j'avais l'entrée là, ben évidemment j'étais pas du côté de l'entrée, donc j'avais l'entrée face à moi. Sais-tu comment j'avais su qu'il y avait Survivor Series à Montréal?
Comment?
J'étais à un match avec deux de mes chums, j'étais à un match des Roadrunners.
Oh.
Tu sais, l'équipe de roller hockey.
Yeah, yeah.
Et il y a eu une, c'était au Centre Bell.
Ouais.
Et au Centre Molson à l'époque. Et il y avait une publicité.
Mais non, c'est donc bien drôle.
Il y avait une publicité qui avait, je dis, oh shit, Survivor Series vient à Montréal.
C'est donc bien drôle.
Et il disait la journée, la vente des billets. Avec moi, puis un de ces deux amis-là, avec un autre ou deux autres de nos amis, ben, on s'est parlé, puis on a acheté des billets.
Puis vous avez fait la file?
Moi,
ma mère, elle m'expliquait qu'il y avait une longue file pour acheter les billets.
J'essaie de me souvenir si j'ai fait la file ou si j'avais... Je pense que j'ai appelé. Tu pouvais appeler dans ce temps-là.
Ma mère, elle avait fait la file.
Parce que c'était pas sur Internet, ben ça, c'est sûr. Fait que j'avais appelé, puis j'avais eu des billets en appelant.
Mais quoi qu'Internet, on va en parler tantôt. 9 novembre 1997,
ouais.
Centre Molson à Montréal, 20 593 fans. Et je sais pas si toi t'avais d'autres infos à rajouter.
Premier pay-per-view de l'histoire de Montréal. Il y avait jamais eu de pay-per-view avant ça à Montréal. Puis ça faisait là 10 ans là, qu'on voulait un événement d'envergure à Montréal. On voulait des Saturday Night Main Event. On voulait le stade olympique avec soit Dino Bravo puis Hogan ou soit Ouellette avec Bret Hart. On voulait quelque chose de gros. Et là, c'était le premier pay-per-view, une des plus grosses foules de l'histoire du territoire avec plus de 20 000, comme tu l'as mentionné. 447 284 la gate en argent. C'était un record à ce moment-là pour Montréal en termes de gate. 250 000 achats en pay-per-view, Kev. Ça a été le plus gros de l'année à la WWE. Plus que WrestleMania qui avait fait 2,27.
Oh, ouais.
Plus que SummerSlam qui avait fait 2,25.
Mais c'est le match.
Mais c'est parce que le monde savait que
Brett partait.
Donc je pense qu'il y a eu des achats de dernière minute. Petit comparatif, là, WCW, là. Tu sais, Halloween Havoc 97.
Ouais.
Là, 305 000.
Shit.
Et Starcade de cette année-là, donc qui est arrivé le mois suivant, c'était Hogan contre Sting. Tu sais, Sting qui avait pas lutté depuis un an, là. 650 000.
Puis celui-là était combien?
250.
Aïe, aïe.
Imagine comment il y avait une grosse différence. C'est qu'on vous dit que la WCW était plus populaire, là. C'était pas des farces, là. Donc, ben, c'est les notes que j'avais. Les annonceurs. JR.
Et
le King. Là, il nous montre les Espagnols qui étaient Tito Santana et Carlos Cabrera.
Ouais.
Cabrera, celui qui est encore là aujourd'hui.
Lui, là.
Il était longtemps avec Hugo Savinovich. Et là, il y avait quelqu'un d'autre maintenant. Mais lui, il est là depuis ce temps-là, depuis 94. Et t'as vu les Québécois.
Ben, oui!
Jean Brassard, Raymond Rougeau et son papa au milieu. C'était Jacques Rougeau senior.
Ah, qui ouais!
Était au milieu. Ben oui, Raymond, il avait fait, je pense que c'était arrivé une fois ou deux où Jacques avait des commentaires avec Raymond et Jean. As-tu remarqué l'annonceur?
Oui, c'était un Québécois.
Ben, c'est un Québécois, c'est Albert Difrucia.
Oui.
Tu sais qui?
Non.
C'était l'annonceur de lutte internationale à la fin de
l'année. Ah!
C'est le neveu de Gino Brito. Ouais, puis il a fait juste en français, hein.
Oui, je sais.
Jamais
j'ai trouvé
en anglais.
Ça tellement
pis,
hot, là.
Puis Albert, là, il est plus que parfait bilingue.
Ouais.
Mais c'était juste en français. Mais ce que tu savais peut-être pas, la promotrice pour le show, c'était Joanne Rougeau.
Oh mon Dieu!
C'était dans les années, c'était le plus gros show que Joanne a eu à promouvoir ici à Montréal avant que finalement la WWF reprenne un peu le contrôle des promotions. En attendant, il y avait des promoteurs locaux et Joanne était une de celles-là. La seule femme, je pense, à l'époque, qui était promotrice.
Vidéo d'intro, tout simplement incroyable. C'était... Ouais. Oh man, je voyais ça puis j'avais des frissons. Survivor Series présenté par Karate Fighters, Mega Pyre et le feu. Oh oui, mais hey, t'as-tu vu?
Quoi?
Mega Pyrotechnique puis le feu il est pogné en avant du. Le feu a pogné au début du show.
Ah, mais ça se peut.
Sur le entrance ramp.
Mais ça, je pense que ça arrivait une fois de temps en temps.
Mais moi, j'ai paniqué, là. Puis après ça, ils ont plus jamais montré le entrance ramp pendant genre at least 2 minutes. J'ai dit, le feu est pogné.
T'étais assis où, toi?
Okay. Moi, j'étais Arkham, mais comme là-bas. Puis là, je me suis cherché, puis j'étais comme sur le parterre, mais plus loin.
J'ai envoyé des photos, vous checkerez.
Ta story Instagram.
Ben, ma story Instagram, elle sera peut-être plus là quand vous allez
la checker. Ah, mets-le sur Twitter.
Mais je l'ai mis sur Facebook.
Okay.
Je l'ai mis... En tout cas, bref, il y a des photos, entre autres, de Frankie the Mobster, un lutteur québécois qui était première rangée, puis qu'on voit aussi se faire interviewer, puis qui dit Shawn Michaels va gagner le traître. On voit aussi Lufisto.
C'était déjà heel
on voit aussi Lufisto, et on voit Sexy Eddie également. Donc, c'était drôle de voir... Moi, j'ai un de mes amis, je reconnais, là, à chaque fois que le hard cam, le film, il y a un chandail de Larry Robinson avec un A. Il est pas manquable, là, tu le vois partout.
Malade.
Un de mes bons chums, Merce, qu'on l'appelle. Donc, ouais.
All right, on commence la carte. Ouais. Headbangers and the New Black Jacks.
C'est Survivor Series, donc thématique 4. Ouais, ouais. 4.
Headbangers and the New Black Jacks, Wyndham et Bradshaw face à Road Dogg, Billy Gunn and the Goodwins. 8-man elimination tag match.
T'as le droit de parler en français quand tu veux, hein?
J'ai dit face à.
OK.
Road Dogg.
Eh hey, ben, Bradshaw, c'est JBL.
Oui, JBL.
Puis Wyndham, c'est Barry Wyndham. NWA.
Avant que les partenaires soient
Four Horsemen, puis l'oncle de Bo Dallas et de Bray Wyatt.
So, Road Dogg. Yo, sa promo, il pourrait pas la faire en 2020, hein? La promo qu'il a faite.
Ah ouais, mais toutes les promos.
Oh, Jesus
de
Lord. Oh, man. Shit.
J'ai
comme mes cheveux ont hérissé. Bradshaw élimine Henry Goodwin, deuxième. Out, c'est Barry Windham. La foule qui chante faggot. J'étais comme, ah. Oh!
Ben, c'est.
Je sais pas.
C'est la réalité d'il y a 20 ans.
Tu comprends mes petites oreilles prudes.
Ben oui, je sais.
Billy Gunn.
De millénial.
Billy Gunn élimine Mosh. Mash?
Mosh.
Mosh.
C'était Mosh et Thrasher.
Yeah, j'ai écrit Mash, là. Thrasher élimine The Goodwin, l'autre, là. Road Dogg élimine Bradshaw. Puis là, c'est controversé. Billy Gunn élimine Thrasher avec un leg drop du top rope. Billy Gunn et Road Dogg.
Il y avait eu un blind tag.
Exact.
Gunn a brisé le compte sur Thrasher.
Ouais.
Ouais, ben c'est ça. Et je pense.
Leg drop.
Non, mais je pense qu'il touche même pas. J'ai essayé de le reculer, là.
Oh.
Sur le leg drop, là, je pense qu'il passe.
Oh,
je pense qu'il passe 6 pouces à côté. Mais il l'a vendu.
Ouais,
fait que, tu sais.
Moi, j'ai mis 1 sur 5.
Meltzer, 15 minutes 25. Meltzer, il a fait un dud. Il a même pas coté vu que c'était vraiment pas bon.
Je peux pas mettre dud parce que les gens rentrent dans le ring, là.
Je sais. Mais bon, tous les deux, vous trouviez que le match était mauvais. Et je suis d'accord avec
toi. Attends, avant de parler d'un match shit, là, t'es-tu prêt?
oui, je suis prêt.
Mais t'es-tu prêt?
Ouais, mais je suis prêt.
The Truth Commission face à Discipline of Apocalypse.
Disciple of Apocalypse.
Acopolypse?
Acopolypse.
Elliptique?
DOA. OK, attends. Te rappelles-tu c'était qui DOA?
100% non.
OK. T'avais 8 Ball et Skull. Ça, c'était les frères Harris. Tu sais, ils ont eu une gimmick de Creative Control à un moment donné.
Oh my God!
À WCW, là. Puis c'est eux autres qui étaient impliqués dans la vente d'Impact dans les dernières années parce qu'ils travaillaient chez Aerolux. Qui voulait acheter Impact, puis c'était eux autres qui travaillaient là à ce moment-là. Crush, mais tu sais c'est qui Crush, là?
Oui, c'est qui Crush,
bon.
Oui.
Et Chains, on en a parlé, c'est Brian Lee qui avait un des Undertaker à un moment donné, un des faux Undertaker. True Commission, tu te rappelles, c'est qui?
Ces deux équipes-là, j'avais zéro recollection.
J'avais Interrogator. Ça, c'est Kurgan. Tu te rappelles que Kurgan, un grand géant, Maritimes.
Ouais.
C'est un Canadien. T'avais Jackal.
Ouais.
Jackal, qui est Don Callis, qui fait TNA, puis ben, Impact, puis New Japan.
Il était bon, Jackal, au micro. C'est la seule note que j'ai.
Ben oui, Jackal était bon au micro. C'était lui un peu le mastermind de l'équipe. T'avais Recon, que t'as connu par après, peut-être, sous le nom de Bob Buchanan.
Oui, Bob Buchanan.
Et t'as Sniper. Sniper, c'est Luc Poirier. C'est un gars du Québec.
Ah ouais?
Qui avait commencé à la fin de lutte internationale, puis a connu beaucoup de succès en Allemagne sous le nom de Rambo. Il y a eu une rivalité avec Vader pour Otto Wagner.
Ah ouais?
En Allemagne, là, on en parle dans mon livre, dans notre livre à moi, Pierre Bertrand, sur l'histoire
lequel?
De lutte. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Il est disponible où?
Il est disponible sur Amazon.ca. Ils en ont fait réimprimer là, récemment.
C'est toujours à la même place que tu peux acheter le livre Le 8e merveille du monde?
Le livre sur le géant ferré, ah, absolument. Okay. Ouais.
Fait que, bon, shit. The Interrogator dispose de chains en comme 2 secondes.
Mais il a éliminé trois personnes.
Bon, il a éliminé tout. Je veux-tu que je dise. Non, ce match-là, ça vaut même pas la main. Je dis qui a éliminé
Kurgan. Ben, Kurgan. Interrogator a éliminé trois personnes. C'était, le match était fait pour le mettre over lui. Ouais. Crush a éliminé Sniper. Puis tout de suite après, il s'est fait éliminer par Interrogator. 9 minutes 59.
Un,
Meltzer a mis moins 1,5 étoile.
Ouf.
Et ça avait été voté le 7e pire match de l'année.
Ah, c'était shit. Je peux pas croire que c'était dans ma télévision. Après ça, le highlight de Survivor Series, les commentaires des Québécois.
Ah,
qui va gagner?
Ben oui, ben c'est là qu'on voit entre autres Frankie le Mobster.
Oui, moi je pense que Bret Hart va gagner.
Ah
oui,
on est là. Canada. Ouais, on annonce.
Oui, puis les Québécois qui parlaient en anglais, c'était comme guys. Oui, me, I think Bret Hart is gonna win, là.
Aye.
Oh wow, so great.
Attends, après ça, t'as JR.
Oui, je l'ai ici. JR qui s'est gâté avec Smoke Meat chez Schwartz.
Ben écoute, puis honnêtement ça, les lutteurs là qui viennent, moi ils m'en parlent là, quand je les rencontre dans les conventions, les frères Ebner, les Road Warriors, JR, Schwartz là, c'est comme the best place pour eux autres, là. Ils capotent sur eux.
JR dit qu'il s'est gâté chez Schwartz, puis King qui répond, c'est ça Halloween? Je pense que oui, parce que si je me fie à la face des gens, ça l'est.
Wow, puis à un moment donné, il y a eu un chaîne de Burger King pour Jerry Lawler, ça m'a beaucoup fait rire.
Ah, c'est drôle.
As-tu vu ensuite l'entrevue de Steve Austin?
Oui, je l'ai. So, attends. So, Stone Cold, il répond aux fans en ligne, là?
Sur America Online. Attends, C-O-L.
Si Pat, tu voulais parler à Stone Cold Steve Austin, fallait que tu te connectes sur America Online.
Oui.
Tu cliques sur International.
Oui.
Après ça, tu rentres Superstar.
C'était compliqué.
Yo, Kevin Dunn, il avait de la misère à tout dire. Là. J'ai
qui c'est ça qui avait de la misère?
Kevin Dunn, c'est celui qui l'expliquait.
Pas Kevin Dunn.
Kevin Kelly. Kelly, c'est lui qui l'expliquait. Il avait de la misère à tout dire.
Ah non, mais c'était, c'était compliqué.
Ben
toi, t'as-tu connu ça? Te rappelles-tu du modem qui faisait du bruit?
Ben oui.
Tu prenais la ligne.
Tu pouvais pas parler au téléphone.
Ça coupait.
Ça fuckait ton MSN game avec les filles parce que ta mère voulait parler au téléphone. The America.
Ton MSN Yo. Game.
The America.
T'as-tu connu ICQ?
Ben, je pense que oui.
Et c'était une affaire de chat qui faisait... Quand t'avais un message, ça faisait...
Ça faisait quoi?
T'appelles-tu ça, Fred?
Oh, yeah! Ben, Fred, on a un nouveau drop.
Tu le fais même pas comme faux, c'est...
Team America face à Team Canada.
Team USA.
Ouais, Team USA, j'ai mis Team America. Là. Vader, Steve Blackman, Matt Merrow avec Sable et Goldust face à...
Non, accompagné par Sable.
Oui, accompagné par
Sable. C'est Goldust, Mark Merrow, Steve Blackman, Vader. Attends une minute, sais-tu pourquoi Blackman est dans le match?
Oui, je l'ai noté. So, Steve Blackman avait rush le ring le Monday Night Raw avant. Oui. Puis Vader, il avait politic his way up pour lui donner un contrat.
Mais tu sais quoi la vraie raison derrière?
Ah, vas-y.
Le spot devait aller au lutteur de Patriot, de Patriot.
Ouais.
Patriot.
Ouais.
Puis il s'est blessé. Fait qu'il s'est blessé au triceps. Donc, ils ont mis Blackman. Blackman, dans le fond, là, c'est un gars qui avait été entraîné à Stampede Wrestling à Calgary. Okay. Il y a 10 ans avant, donc à la fin des années 80. Il était ami avec Perlman puis Owen. Fait qu'il a appelé les boys puis il a dit, à un moment donné, il a lâché la lutte. Quand il est revenu, ben là, à un moment donné, il a appelé les boys pour dire, écoute, moi, j'aimerais intéressé à venir à la WWF. Et c'est eux autres qui l'ont fait rentrer. Puis là, ben, c'est Langold qui avait trouvé pour le faire.
Il faut trouver cette bonne idée.
Hein? Ça va-tu?
Moi, j'ai baillé ma vie.
Ben
j'ai,
oui, Colin,
j'ai pas trouvé que c'est une bonne idée.
Intéressant que ça.
Mais non, mais
Fait qu'il est rentré comme étant un expert d'arts martiaux mixtes.
Mais j'ai pas aimé l'angle.
Ou d'arts martiaux plutôt, pas d'arts martiaux mixtes, mais d'arts martiaux.
J'aime pas le fait que tu glorifies le fait que le patinet, il rush le ring.
C'est un fan. Il est devenu comme un fan.
Puis après ça, tu lui donnes un contrat.
Vader, il a dit, hey, on a besoin d'un partner, viens avec nous.
Check Ben, j'aurais rush le ring le roll après.
Team Canada, c'était British Bulldog, Todd Furness, Jim Neidhart et Phil Lafond.
Attends, Phil ou Pierre, Pat? Est-ce que t'as écouté JR?
Il l'a-tu appelé Pierre?
Il a appelé Phil. Il l'appelait Pierre au début. Puis Monday, il a switch pour Phil.
Ah, ouais.
Ouais.
Phil Lafond, si je me trompe pas, c'est un Ontarien qui qui parlait français, là, puis qui est maintenant dans la région de Calgary. Mais il a lutté pour l'international. Lui, il luttait avec Tom Zink en équipe. Il faisait sensation. Mais Lafond et Furness au Japon pour All Japan, là, c'était une des meilleures équipes dans les années, fin des années 90. Ce qui est drôle, c'est que c'est Team Canada, bien il y en a 3 sur 4 qui sont américains. Ça m'a fait rire.
Puis Jar, il dit sur le show, en plus.
Oui, il dit, t'as raison.
Jar ou King, excuse.
Et c'est JR qui le dit. Et puis, c'est quoi l'autre note que j'avais par... Ah oui, t'as-tu écouté la toune que Team USA est rentrée?
Je l'ai noté, c'est Kurt Angle.
C'est la toune de Kurt Angle.
Ils l'ont juste rehash pour leur donner. Mais savais-tu...
Le Patriot, il y avait cette toune-là.
Oui, c'est ça.
Il y avait cette toune-là. Et ben là, ça devait être lui qui était dans le match. Fait qu'ils se sont dit, hey, c'est une bonne toune. On va la garder. Et puis c'est Kurt Angle qui en a hérité par la suite.
La toune de Vince McMahon, c'est la toune du Rumble. No Chains in Hell, c'était le Run Rumble.
Ouais, t'as raison, c'est vrai.
C'est fou, là, qu'il rehash des tunes.
Ouais.
Oh, yo, Golda, c'était parfait, là. No flying fucks given. Le FU d'en face.
Ouais.
Le truc derrière la. Always alive ou. Still alive, on n'a pas de même. Elle avait toute son storyline avec sa femme, son gars.
Ouais, mais ça, le storyline, c'était Goldust, lui, il avait quitté sa femme, il avait quitté son pays. Ouais. Il avait quitté sa femme, puis là, ben, à la fin du match, il veut pas taguer, puis il quitte. Fait que là, le storyline, c'est un lâche.
C'est un quitter.
C'est un quitter, tu sais, il lâche sa femme, il lâche sa famille, il lâche son pays, son équipe. Fait que c'est ça, le storyline derrière Goldust.
Ah, les gars sont arrivés avec le drapeau du Québec, pis tout, c'est ça que j'ai écrit.
Drapeau du Québec?
Ouais, c'est qui avait le drapeau du... British Bulldog.
Ah, ouais,
ouais, British Bulldog est rentré avec le drapeau du Québec comme si...
comme si c'était... comme si c'était... pas Davy Boy Smith, mais David le garçon.
Yeah, je sais pas c'est qui.
C'est Davy Boy, en français.
Black man count out comme un imbécile. Oh, fuck.
Davy Boy, David...
Pat, ça, c'est dans la même catégorie qu'Abandon.
David le garçon.
Ça, c'est Abandon, Pat. Steve Blackman qui se fait count out comme un imbécile après genre 2 minutes. Big splash de Big Bad Vader face à Neidhart. Easy out. J'étais comme, oh my God, ça va donc éviter les éliminations.
Vader en a éliminé 3, là.
Ouais. Après ça, Vader massacre Phil Lafond. Aucun heat à date. Les gens sont flat. On a toujours pas vu Goldust. Ça, c'est ma note. Furnace pin Moreau avec un roll-up. Les gens étaient plus tristes de voir Sable partir qu'autre chose. Vader. Hey, moi, j'ai trouvé ça fou que Vader donne autant d'offense à Furnace. Mais vraiment
mais
beaucoup d'offense.
Je pense que les deux, je peux me tromper, mais je pense que les deux se connaissaient du Japon. Donc, je suis pas nécessairement surpris.
Il a donné des scoops là, il a donné vraiment beaucoup d'offense.
Furnace, c'est un homme fort, là.
Oui, je sais, mais je m'attendais pas à ce qu'il donne autre. Ah, comme il a vraiment donné beaucoup. Vader slip, Goldust se fait tag in avec une bitch slap d'en face. Il quitte avec son alive again derrière la tête. Vader bomb sur Furnace. British Bulldog frappe Vader avec la cloche. C'est le dernier qui restait du côté de Team Canada. 1, 2, 3, Team Canada gagne.
Team Canada était babyface, là. Il y avait un bon pas, j'ai trouvé.
Au début du match, puis à la fin du match. Mais pendant le match, il n'y avait aucun hit. Là.
Non, mais je parle que oui, mais ils ont eu une bonne réaction sur les entrées et sur les sorties.
Puis j'ai pas aimé que Davy Boy, il quitte, genre, il est juste parti.
Ouais.
Il y a rien, pas de célébration. Fait que j'ai regardé quoi, moi, pendant 20 minutes, là?
Ouais, mais peut-être que, tu sais, ils ont peut-être été un petit peu plus longs, puis ils leur ont peut-être dit, grouillez-vous, allez-vous-en.
OK, peut-être.
17 minutes 5.
1 sur 5.
2 étoiles et demie.
Oh, tout ça?
2 étoiles et demie. Je peux pas te dire.
Mankind face à Kane.
Attends, t'oublies la meilleure partie du show.
Excuse-moi.
La fille qui gagne un prix, Jatlyn Cook.
Pat, j'ai sûrement skip cette affaire-là.
Lawler et Ross, Il y a un concours, puis il appelle la gagnante live. Elle écoutait le show. Je me rappelais pas de... Ben, en fait, je l'ai jamais vu sur Pay-Per-View, ce show-là. Elle veut pas. Mais je me rappelais pas qu'il appelait des gagnantes sur Pay-Per-View. Ça faisait aucun bon sens, puis c'est du n'importe quoi. Du remplissage, mon gars, là. Fait que, ouais, c'est une autre époque, ces Pay-Per-View-là. Kane contre Mankind. Kane accompagné de Paul Bearer. Je vous fais un peu l'historique. Kane avait commencé le mois d'avant à Bad Blood. Moi, sais-tu comment j'ai vu les débuts de Kane?
Mais tu l'as compté.
J'avais pas acheté les pay-per-views. J'achetais pas les pay-per-views chez nous. Fait que il y avait dans le temps avec la télé, tu pouvais voir les canaux embrouillés, là. Fait que j'avais vu les canaux, t'avais très bien le son, mais t'avais l'image très, très, très moyenne puis enneigée. Mais les débuts de Kane, je les ai vus avec ça. Donc c'était à Bad Blood le mois d'avant. La gimmick, c'est le demi-frère de l'Undertaker. Puis là, Paul Bearer, qui était plus avec Taker, qui était avec Mankind pendant un bout de temps, il voulait révéler le plus grand secret de Taker. Puis le secret, c'était Taker avait parti un feu, puis il avait brûlé sa famille qui habitait dans un salon funéraire, évidemment. Et que là, Taker disait non, c'est pas vrai, c'est Kane qui est un pyromane, c'est lui qui avait parti le feu. Bref, Taker voulait pas l'affronter. Il voulait pas affronter son demi-frère qui était censé être mort. Et c'est le premier match de Kane à la WWF. Pas le premier match du gars derrière de Glenn Jacobs.
C'est le premier match du personnage.
Et puis c'est contre Mankind.
Yo.
C'est ça.
OK, so Mankind, moi je lis mes notes. Moi j'aime ça lire les notes que je prends pendant que je le regarde parce que tu t'es en temps réel, là, OK? Ouais. So, j'ai écrit, yo, Mankind avait la meilleure team song de tous les temps. Yo, Kane a la meilleure team song de tous les temps. Le team song de Kane était quand même fou.
Ah, non, c'est une belle entrée.
C'est surtout
pour
dans ce temps-là, là.
Ouais, quand t'expliques d'où vient le personnage avec le feu et tout, ça faisait vraiment du sens.
Il y avait le Bray Wyatt treatment avec la lumière rouge, la finale.
C'était même plus que rouge. Tamisé. Wyatt, à la limite, c'était vraiment rouge. Ça, c'était pas rouge. C'était tamisé. Pis, on a vraiment quasiment fermé les lumières.
Moi, mon seul souvenir vivant, là, comme Shawn Lesley, je le vois, la fin du match de Bret Hart puis Shawn Michaels, l'émeute, en fait, là. Dans ma tête de kid, là, je mourrais, là. mais en tout cas, on va parler tantôt. Puis, la lumière rouge, Kane m'avait tellement fait peur, me semble que ça me dérange pas quand c'est Kane que quand c'est Bray Wyatt. La lumière rouge.
Mais elle était pas si rouge que ça, je te le dis, c'était plus tamisé que rouge.
Le concept,
ils l'ont pas gardé éternellement longtemps non plus, mais ça faisait différent au début.
So Kane attaque Mankind au début du match. Ça faisait 30 jours que Kane était là, quand t'en as parlé tantôt. Un match qui était un peu slow pace avec plusieurs fous spots, OK? Le spot des stairs.
Des escaliers.
Des escaliers. Après ça, t'as le coup à la tête non protégé de Kane.
Ouais, mais ça.
Non, mais comme Mankind or Wine comme.
Ben oui, mais c'est ça.
Comme une Jamaïcaine dans un. Ben Wine. Tu sais pas c'est quoi, Pat Wine?
Oui, oui.
Ben comme une Jamaïcaine au Fuzzy Laval.
OK, c'est correct. Je voulais juste savoir où tu s'en allais avec ta Jamaïcaine. Pas
ta Tom Tom.
Et.
What a Guan.
T'es qui, Buju Bantam? T'as vois bien, je peux te. Il s'attendait pas à se faire caler Buju Bantam.
Attends, j'en ai mis d'autres.
Il s'appelait le champion, je me trompe pas.
Kane lance Mankind hors du ring sur la table. Mankind se lève.
Hey, ça, le spot de table, il était
solide. Ben oui, il était fou. Après ça, DDT on the floor. Mankind fait son elbow drop du ring au floor. Ouais. J'ai adoré le match.
Tombstone pour la victoire.
Puis j'ai noté, il y avait un petit ECW chant.
Ah, tu vois, ça, je l'ai pas perçu.
C'est comme ça, 1, 2, 3. Moi, j'ai mis 2 sur 5. 3 sur 5.
9 minutes 27. Moi, 3 étoiles, ouais. Meltzer, également. 3.
Entrevue de Vince McMahon.
Qui se fait demander.
Who's gonna win?
Qui c'est qui va gagner entre Bret Hart et Shawn Michaels? Il hésite, puis il répond. I don't know.
Oh man,
c'est quand tu sais ce qui se passe, j'avais oublié cette entrevue là. Puis quand tu sais ce qui se passe là, c'est hilarant de penser ou c'est ironique de penser qu'il a répondu I don't know. Hey, écoute, je braillais devant ma télé.
Par la suite, Yo, we are the nation of domination. Shit. Yo, les gars étaient badass, là.
Ouais, c'était dans les derniers temps de Farouk comme leader de la nation.
Tu voyais The Rock, là.
Tu savais qu'il y avait quelque chose.
Ben oui. Juste son entrée, il y a badement tout le monde.
Farouk, D'Lo Brown, Kama Mustafa, qui est le Godfather, et Rocky Maivia, contre Ken Shamrock, Ahmed Johnson et Legion of Doom. On a eu droit même d'ailleurs à une petite promo avec le Waller Rush.
Ouais, j'ai cru que la promo de Hawk était raciste.
Pourquoi?
Il a dit, on va prendre tous ces criminels.
Ben oui, mais...
J'ai dit Hawk.
Oui, je comprends, mais bon.
C'est la première chose qu'il dit. On va tous prendre ces criminels.
Hey, lui, il vient des Bad Street de Chicago.
I know, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je l'ai noté, c'est ça qu'il a dit.
Shamrock a une réaction de fou quand il sort.
Oui. Et quand il gagne.
Et quand il gagne, puis LOD, là, les Road Warriors, là, ils étaient populaires à Montréal il y a pas, tu sais, une dizaine d'années avant, là. Les gens l'avaient pas oublié.
Bon, Rock élimine Hawk quick. Mm-hmm. Quick. Ahmed élimine Farouk quick.
Ouais. C'est fait que tu vois de Farouk, ça va mal ses affaires parce que c'est même pas lui qui reste là, tu sais.
Le Frog Splash de D'Lo était beau. Là.
Il était beau. C'était un beau Frog Splash.
Il est underrated
surtout
Frog Splash.
Pour un gars de son gabarit, c'était un beau Frog
Splash. Underrated Frog Splash. Ouais. Puis tu sais, c'est pas un Frog Splash que Get à Montréal, il l'a sorti. C'est constant que c'est beau. Là.
Ouais.
Ahmed est whack, là. Il y a comme rien pour lui. Le gars est
poche.
Il y avait un physique. Il a eu le old cup spot, là. Rock élimine Ahmed après avec l'aide de Farouk. Les deux se battent, s'en vont dans le backstage. L'autre Hawk élimine Mustafa. Finalement, The Rock tap out à Ken Shamrock. Réaction insane
avec
Ken
Shamrock. Le ankle lock.
Ouais. Réaction insane de... Moi, j'ai adoré la réaction de Ken Shamrock.
Ouais.
Il a gagné, il était content de gagner. C'est le seul de toutes eux, là, il était content de gagner.
Moi, ce que j'ai remarqué surtout, puis à ce moment-là, dans le pay-per-view, c'est que tu voyais qui voulait donner des pushes.
Ouais, vraiment.
Tu sais, Rocky Maivia, Ken Shamrock, The Interrogator, le Kurgan, parce que c'est un grand puis un gros.
Ouais.
New Age Outlaws, et puis c'est qui les autres à qui ils veulent donner, qui c'est qui gagne à la fin? Ben, Team Canada, qui était hot, là. On avait eu le show de Stampede à Calgary, dans la même année, là, quelques mois avant. Donc, tu sais, tu vois, pis ça, j'aime ça. Ça veut dire que les matchs étaient mauvais. Il manquait de profondeur. Tu vois qu'il manque de profondeur dans ce roster-là.
Ouais.
Par contre.
Mais il essaie de build.
Par contre, il essaie de build. Et ça, le booking, dans ces années-là, c'était leur force.
Owen!
Oh, attends, 20 minutes 28.
Ah, 2.
2 et 3 quarts côté
Nantes. OK, sur 2. Owen Hart face à Stone Cold Steve Austin.
Okay.
J'ai besoin du t-shirt à Owen 360. Je sais pas, il est où.
C'était le match revanche après SummerSlam. SummerSlam, évidemment, au mois d'août, c'était le match où Owen brise le cou d'Austin. C'est un accident. Il fait un pile driver, puis la tête dépasse trop. Donc, Austin avait fait des house shows, puis il a fait un dark match, mais c'était son premier match à la télé depuis qu'il revenait de sa blessure.
Puis, hey, tu te rappelles qu'on a fait No Way Out?
Oui.
Quand on a fait No Way Out, c'est son premier match de retour
de quand il était parti.
Sur Montréal, c'est comme sa ville de retour.
Ben oui, effectivement. Oui, c'est ça, c'est le Owen 316, le t-shirt, tu parles. I just broke your neck. Ça, c'est Owen avant Nation of Domination, là.
Oui, c'est le Owen avant que ça devienne bizarre un peu, là. Ouais.
I am not a nugget. J'avais oublié qu'on avait la clip.
Owen, I miss Owen. Ouais. OK. So, c'est un des meilleurs matchs d'Owen.
Hey, puis si vous nous écoutez, là, puis vous n'avez pas encore écouté notre podcast sur Owen Hart, allez écouter ça. On a plein de monde en entrevue. C'est vraiment
un de nos meilleurs podcasts.
Ah, c'est notre meilleur podcast, à mon avis.
T'as raison. Écoute, il y a tellement de spots dans le match. Là. Moi, j'ai pas noté les spots. Là.
Ben, écoute, ça a duré 4 minutes 3. Là.
Non, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Là, parce que Rock, Austin arrive, il se fait attaquer par Nation of Domination. Pas par Hot Foundation, excuse.
Ouais.
Il se fait attaquer par Hot Foundation. stunner, stunner. Là, il se fait attaquer par Owen qui crée diversion. Il a même pas enlevé sa chemise. Il enlève sa chemise. Boom, stunner. Là, après ça, c'est quoi? Phil Lafonte?
Phil Lafonte.
Et puis l'autre Fournette, Fourfour, là.
Doug Furness.
Tifour, là, il y a...
Doug Furness. Ouais, Furness, c'est un mélange.
Austin remporte le titre face à Owen Hart en l'espace de 2 secondes pour le titre intercontinental. Moi, personnellement, juste parce que c'est Owen, j'ai mis 3. Parce que le match était shit.
Ouais, 1 étoile, Meltzer. Ouais.
Mais c'est un des meilleurs matchs de Owen. C'est un des... J'ai dit match, mais c'est un des meilleurs storylines de Owen, je trouve. Je trouve que Owen, c'est la dernière fois, ça, que Owen était bon. Il était aussi bon. Tu peux comprendre ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
OK. J'ai pas de disrespect.
Stunner, comme tu disais, pour la victoire. Et ensuite, Stunner sur Lafont et Furness.
Yeah.
Hey, ils ont pas bumpé, là. Ils savaient pas. On savait pas encore comment prendre un Stunner
attends,
à l'époque.
Attends, le gars, il a pris le Stunner. Il est resté couché sur son compte sous Stunner.
Ouais.
Il a fait la planche. Mais j'ai vrai. C'est un de mes films préférés de Owen. Comme je dis, c'est la dernière fois qu'il était à ce level-là. Puis après ça, Nation of Domination. Ils ont mis le blanc. Shawn Michaels face à Bret Hart pour le titre.
Ouais, là, comment tu veux qu'on en parle? Parce que là, il y a tout un historique là avant d'arriver à ce match-là.
Je sais, mais Pat, tu comprends pas la question.
Tu veux-tu je le brief, l'historique?
Oui.
OK, bon. L'historique, 96.
Je veux juste mentionner que j'ai écouté le match.
Oui.
Sur mute, pendant qu'on faisait le podcast, les antipodes tantôt. Fait que j'ai tout le match, là,
Ouais. Après ça, je me demande pourquoi je parle à Fred des fois. Donc.
If you knew.
Donc, 96, Brett est agent libre. Il se fait, évidemment, il se fait courtiser de part et d'autre. Et la WWF lui fait une offre, une entente de 20 ans à raison de 1,5 million par année. En plus, on prévoyait 1,5 million par année comme lutteur. Donc, on prévoyait qu'il prendrait sa retraite après 3 ans parce qu'il était déjà âgé de 39 ans et que les 17 années après, donc les 17 autres années de son contrat, ça serait, il y aurait une place importante en arrière-scène plutôt, tu sais, au niveau décisionnel sur le produit et les scénarios, là, genre de Pat Patterson, si tu veux.
Ouais, puis il pouvait l'utiliser quand bon leur semble, mais c'est quoi que c'est qui dit que Jared disait? C'était... sporadique.
Ouais. Et là,
puis, attends, avant que j'oublie, là, allez écouter le podcast de JR qui mène à Survivor Series 97. C'est toute l'année 96 de Bret Hart.
Mm-hmm.
Puis c'est 2h30 là-dessus, fait que t'as vraiment beaucoup de détails.
Si vous trouvez également, j'ai fait un podcast là-dessus avec Dave Meltzer, où ce qu'on parle de tout ça. Quand Dark Side of the Ring a sorti son documentaire sur Survivor Series, moi et Dave, on fait toute l'historique. Et sur le tvasport.ca, pour les 20 ans, donc en novembre 2017,
c'est
j'ai
vrai?
Fait deux gros articles sur partie 1, partie 2, donc tous les détails sont là. Je vais essayer au moins de vous les résumer. Donc, le contrat lui aurait donné 10 millions au bout de 20 ans. Et finalement, en mars 97, puis on lui avait promis plein d'affaires. On lui avait promis qu'il resterait babyface, qu'il serait un top babyface. Le contrat prévoit aussi que, pis ça c'est très important, qu'il y avait une clause, qu'il y avait un creative control. Il y avait le contrôle créatif du dernier mois de son emploi s'il venait à quitter la compagnie ou si on lui montrait la porte. Donc, en mars 97, McMahon le veut heel. Déjà, il brise une de ses promesses. Et Brett, c'est lui qui arrive avec l'idée de dire, ben, regarde, je vais être heel aux États-Unis, mais babyface au Canada, c'est là Team Canada est créé. Et là, ben, McMahon, ça va pas bien. La WWF, ça va pas bien. Vous vous rendez pas, les gens à la maison, là, je sais pas si vous savez à quel point la WWF, 96-97, a vraiment passé proche de fermer les portes, là. Ils perdaient de l'argent. Ça allait vraiment pas bien financièrement. Et là, ils ont besoin d'avoir un prêt. Et là, les gens qui sont prêts à lui prêter de l'argent, ils disent « Ouais, mais là, il faut que tu te débarrasses de gros contrats. » Parce qu'on peut pas te prêter de l'argent si... Tu sais, t'es obligé de donner autant d'argent sur aussi longtemps. Donc, Vince, il dit « Regarde, moi, je pourrais plus te payer. Si la WCW est toujours prête à t'offrir quelque chose, là, vas-y. Parce que moi, là, je pourrais pas le payer, ton contrat. » Et là, Brett commence à négocier avec la WCW. Puis Brett, dans son contrat, dans le fond, il y avait il fallait qu'il donne un préavis de départ avant le minuit le 1er novembre. S'il voulait profiter de son droit de veto sur comment il était pour être utilisé. Okay. La clause qu'on parlait, là, il fallait qu'il donne son préavis avant minuit le 1er novembre. Et donc 8 jours avant Survivor Series, là. Et là, bon, finalement, il y a une offre de la WCW qui est une offre de un petit peu plus de 3 millions par année pour 3 ans. Donc, Brett voit ça comme, shit, je vais faire 9 millions en 3 ans, ce qui me donne beaucoup plus d'argent que les 10 millions sur 20 ans que la WWF m'offre. Mais là, pendant ce temps-là, Vince regrette son move d'avoir dit à Brett de pouvoir négocier ailleurs parce que il faisait pas d'argent avec les pay-per-view. Puis là, il a changé les prix de ses pay-per-view. Et en changeant les prix, il pensait qu'il était pour avoir une baisse des achats. Mais les achats sont restés pareils. Donc, il a fait plus d'argent parce que là, les pay-per-view étaient plus élevés. Et là, ses problèmes d'argent étaient moins critiques. Donc, il voulait garder Brett. Donc ça, les gens oublient là, qu'il y a eu cette partie-là.
Je vais ajouter, oui. Brett, il aurait demandé de faire $1 de un sou. Il voulait le contrat de Hulk Hogan. Puis il aurait dit, moi, je veux le même contrat qu'Hulk Hogan avec un sou de plus. C'est ce qu'il aurait demandé à Eric Bischoff. La première fois qu'ils se sont parlé. Fait que je trouve ça drôle.
OK, ouais, ouais, parce que c'est pas ça qu'il y a eu.
Non, c'est pas ça qu'il y a eu. Mais la première fois, puis après ça, Eric Bischoff.
Ouais, mais c'est parce que Brett avait encore.
Le grudge.
Le grudge, le Brett de que Hogan a jamais voulu le mettre over à la WWF.
Mais ça m'avait fait rire quand Jerry comptait ça.
Donc tout ça pour dire que ben finalement Brett décide d'aller vers la WCW et il paniquait le Brett là, il faisait signer des ententes de confidentialité à tous ceux qui étaient au courant de la nouvelle, il voulait vraiment pas que ça sorte. Et ben là il commence à penser ben OK, là t'es champion. Puis à ce moment-là, il faut s'imaginer, le titre était vraiment important là, pour la WWF. Là. Tu perds ton champion du monde, c'est un gros, gros blow. Et on pourrait plus se l'imaginer comme ça aujourd'hui, mais c'était ça à l'époque. Et là, ben, ils commencent à penser les scénarios, puis là, ils veulent que ça soit Sean le prochain champion. Sean avec qui Brett, ça marche pas, là. Ça a jamais marché. Et là, Brett, lui, en plus, déjà qu'il est réticent à perdre contre Sean, il veut pas perdre au Canada, parce qu'il pense qu'au Canada... ça va c'est avoir des c'est... oui exact, mais ce qu'il comprenait pas Brett, c'est que Montréal c'était pas un Québécois là Brett. Tu sais, oui, il était populaire, mais Brett a toujours dit je voulais pas qu'il y ait d'émeute. Il y aurait jamais eu d'émeute à Montréal. Je veux dire, t'étais pas genre un Rougeau, t'étais pas un Vachon, t'étais pas un gars local, t'étais un gars de l'Ouest canadien pour nous autres, tu sais. D'ailleurs, Brett, il a été beaucoup plus populaire après tout ça à Montréal qu'avant. Ouais. Parce que là, il est comme devenu un des nôtres parce qu'on était avec lui.
Puis on l'a vécu ensemble.
Donc, il veut pas perdre à Montréal, il veut pas perdre à Ottawa où Raw est enregistré le lendemain. Et là, à un moment donné, ben, il accepte un scénario. Donc, il garde la ceinture à Montréal. Il va la perdre le 7 décembre à un pay-per-view à Springfield dans le Mass. Un In Your House, et ensuite c'est un match à 4, et Michaels aurait pas eu à battre Brett, il aurait battu quelqu'un d'autre, c'est un four-way, et Brett, lui, ben il aurait fait ses adieux le lendemain à Raw. Il aurait signé une petite extension, parce que son contrat finissait à la fin du mois, mais au moins, tu sais, ils sont entendus là-dessus. Et là, Brett s'était même entendu avec Eric Bischoff, pour que Bischoff ne mentionne pas qu'il avait signé avec la WCW avant, tu sais, que ça soit, tu sais, compris et officiel et tout ça. Puis Bischoff, il avait accepté. Il voulait vraiment avoir Brett, puis il voulait, tu sais, lui permettre de, tu sais, ben regarde, c'est ça que tu veux.
Il a bien rappé ses affaires.
Exactement. Et là, ben, Vince, lui, ben, il commence à pas être à l'aise avec ça. Il a peur que Brett, tu sais, il a toujours été dit par la suite là que Vince, il voulait pas parce qu'il avait peur que Brett se présente le lendemain avec la belt. Mm-hmm. Il pouvait pas. Ça, c'est faux. C'est faux. Vince raconte l'histoire tout croche, puis tout le monde le crut par la suite. Brett, contractuellement parlant, il était avec la WWF. Il pouvait pas arriver à Nitro le lendemain du Survivor Series. Et il pouvait pas arriver avec la belt non plus parce que les deux compagnies avaient déjà des poursuites, ouais, un et l'autre à cause de la belt de Ric Flair et à cause de la belt de Madusa avec la poubelle et tout, à Alundra Blaze. Il savait qu'il y avait des poursuites. Là. Bischoff aurait pas fait ça. Brett aurait pas fait ça. Mais Vince, il raconte depuis ce temps-là qu'il avait peur qu'il se présente. Ce que Vince avait peur, c'est que Bischoff dise à Nitro le lendemain, j'ai signé le champion ouais. de la WWF. Ça, c'était une réelle peur de Vince.
Et ça fait du sens, là. Que...
Ça fait du sens, mais Brett arrêtait pas de dire que
oui, mais il s'est
entendu avec Bischoff. Je suis d'accord. Puis là, ben, t'as Jim Cornette qui est dans le booking de la WWF. Et Jim Cornette, lui, se rappelait du vieux Screwjob qu'il avait eu à Montréal en 1931 avec Henri Dodelan, un Français, Kev. Et
du pain et du vin!
Et ex-Strangler Lewis. Et puis, raconte cette histoire-là et propose l'idée du Screwjob à Vince McMahon, qui adore l'idée et qui décide de s'en aller... vers ça. Ce que Vince n'avait pas prévu là-dedans, là, c'est qu'il y avait une équipe de tournage pour un documentaire.
C'est ça.
Que Brett était mic'é la journée même du show pendant que les deux se parlaient.
Puis pour ouais. ça, là, JR il expliquait dans le podcast que sous le coup, vu qu'il négociait avec Brett, parce que Vince n'était pas down de cette affaire-là d'habitude, mais vu qu'il était en train de négocier avec Brett, il disait oui à pas mal tout.
Ouais, ouais.
Fait que là, c'est pour ça que c'est comme tout est tombé aux bonnes places. Et la journée du show, ils avaient tellement la tête qui tournait à cause de tout ce qui se passait qu'ils ont comme pas catché qu'eux, ils avaient all access puis qu'ils avaient déjà dit à Brett, « Ah, ils ont all access pour tes... »
Ouais, ouais, exact, exact. Et puis là, bon, ben, en arrière-scène, ce qui se trame, c'est que Vince prépare l'angle qui va faire en sorte qu'il va screwer Bret Hart. Donc, ceux qui étaient au courant, t'avais Vince, t'avais Sergeant Slaughter, t'avais Jerry Briscoe. Jerry Briscoe montrait, la veille, il montrait à Shawn Michaels à comment shooter.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'il dit, si jamais Bret décide de shooter sur toi, écoute, Shawn, c'est pas un lutteur, là, c'est un artiste. Et il lui a montré comment. Fait que Briscoe était au courant. Et puis, mais deux qui étaient pas au courant, c'était JR.
Ouais.
Et Pat Patterson. Ouais. Puis les deux, là, ils l'ont dit à maintes et maintes fois. Il y a des gens qui le croient pas de Patterson, ils étaient pas au courant. Pat était pas au courant. JR était pas au courant non plus.
JR expliquait que Vince, il voulait protéger JR. Parce que c'est JR qui était comme
le gars de relation.
Donc c'est fait qu'il voulait protéger JR pour pas que les boys perdent confiance en lui.
Puis il voulait protéger Pat aussi parce que Pat était aimé des boys, mais en même temps il savait que Pat aurait jamais laissé passer ça. Brett et Shawn c'était ses boys là.
Ouais.
Le push qu'ils ont eu c'est beaucoup à cause de Pat.
Puis JR disait que Brett pendant longtemps il a cru que c'était que JR savait. Puis c'est à un moment donné, ils se sont parlé via email, whatever, puis après ça, ils sont allés prendre un verre, puis là, il a dit, la façon que tu me dis, je te crois, puis whatever.
Et c'est ça. Donc, ce qui se trame, c'est que ils planifient le match, puis il y avait des gars, je pense c'est David Boy Smith, qui avait dit à un conseil à Brett, fais attention, laisse-toi pas prendre dans une prise de soumission, ou, tu sais, fais attention à certaines affaires. Bref, ils planifient le match, et le match est planifié, là, on va arriver dans le match, en fait. On va arriver dans le match, puis arriver à ce spot-là, j'en parlerai. Mais le but initial du match... Ah ben non, je vais en parler là aussi. Comment ça va être le match?
Non, mais parle-là tout de suite.
Ouais, OK. Bon,
c'était un brawl, là.
C'était un
brawl partout dans l'aréna.
C'était bon, là.
Oui,
c'était un bon brawl.
C'était comme tout ce qu'on voudrait d'un last man standing ou d'un fast count anywhere.
Ouais.
Bon, puis tu sais, à un moment donné...
Mais ça n'en était pas un.
Non, ça n'était pas un. Puis là, à un moment donné...
Ben la cloche sonne. À un moment donné, il rentre dans le ring de la cloche sonne, là.
Puis le Vince, tu sais, moi, c'est juste... Moi, je regarde Vince, puis je sais qui c'est.
Ouais.
Yo, allez regarder le match à vous mettant dans la tête de Vince tout le long, là.
Puis wow. Shawn joue le heel parfait. Triple H était au courant. En fait, là, Triple H, tu sais, était au courant de ça se tramait. Parce que Triple H, c'est lui qui avait convaincu Shawn Michaels de pas accepter de jobber contre Brett à Montréal. Parce qu'au début, Shawn avait dit oui. Puis Triple H a fini par dire à Shawn, non, tu devrais pas perdre contre Brett Hart, ça marche pas son affaire. Blablabla. Lui, il s'en va dans pas long. Tu devrais pas perdre. Puis Shawn Michaels l'avait raconté ça. Puis il avait dit, sur un des DVD qui est sorti dans les dernières années, puis il avait dit, I don't want to throw Hunter under the bus. Mais c'est lui qui m'a convaincu de pas le faire. Donc Triple H était au courant. Puis là ben t'as les entrées. Moi ce que j'ai aimé c'est les entrées. Ouais. Les entrées parce que il accompagne pas les gars au ring. Fait que t'as Shawn Michaels avec Rick Rude, China puis Triple H, mais tu vois ils sont dans,
ben
sont
le
dans,
Goldberg entrance là,
ils sont dans les coulisses, ouais. C'est ça, dans les coulisses. Puis t'as-tu vu comment le Gorilla il monte pas,
ouais.
C'était pas montré à l'époque, ouais. Le Vince avec le headset ou quoi que ce soit. Donc Shawn Michaels rentre tout seul, Brett arrive avec son crew de Team Canada, il rentre avec un drapeau de Team Canada, un drapeau canadien, puis il rentre, mais Shawn qui arrive avec un drapeau canadien,
aïe, aïe.
Écoute, il se le passe dans,
entre les jambes, dans le derrière, dans le nez.
Avec le drapeau. Durant le match.
That's dirty!
Oh, ouais, vraiment.
D'ailleurs, durant le match, Brett, à un moment donné, va chercher un drapeau québécois.
Oui, oui.
Puis il pointe à la foule, puis là, il étrangle Shawn avec le drapeau québécois. Bref, le match. Puis dès qu'il y a un brawl à l'extérieur, là, c'est là que Vince descend avec Tony Garea, Pat Patterson, Sergeant Slaughter. Pat Patterson mange un coup de poing à un moment donné de Bret Hart. Puis le vent solide, là, Pat, c'était tout un worker, même à cet âge-là. Et à un moment donné, tout le monde s'en retourne en arrière. Parce que là, le match s'en va dans le ring. Et là, les deux seuls qui restent, c'est Vince et Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter, dans les storylines, c'est le commissaire. Ça a de l'allure qu'il reste là.
Ouais.
Vince, lui, reste là, puis c'est pas normal. Vince, le mois d'avant, faisait encore les commentateurs.
C'était un commentateur.
Mais on avait commencé à le dire une couple de fois que c'était le,
ah ouais?
Le boss de la compagnie, mais c'était pas encore assumé pleinement. Okay. Fait que là, Vince reste là. Et ben, t'as le match qui se passe majoritairement
à
l'extérieur. Puis ensuite, ben, il embarque dans le ring pour une douzaine de minutes.
Ouais, puis là, c'est du. T'as le, comme j'ai dit sur l'autre podcast, le spot du poteau. T'sais, t'avais tous les classiques de Brett, tous les classiques de Shawn à cette époque-là. Après ça, t'avais une couple de fast finish, puis là, boom! Shawn.
Ben, le plan original, OK? Le plan original, c'est qu'à un moment donné, Shawn fait le sharpshooter à Brett. Qui était sa prise à Brett, ouais. Bien évidemment. Brett devait
prendre sa jambe,
reverser la prise, ouais. Et là l'arbitre était knocké, c'était Earl Hebner, bien, ouais. Évidemment, l'arbitre est knocké pendant tout ce temps-là. Et là finalement, ben t'as DX qui arrive, puis t'as Team Canada qui arrive, pis ça se finit en double DQ, puis les deux clans qui s'affrontent, puis tu sais qui se battent un contre l'autre. Ça c'est ce que Brett on lui a dit.
Ouais.
C'est
dans les faits, pas ça qui est arrivé.
Ben, dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Dans les faits, ce qui arrive, t'as ça à dire?
J'allais dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo vraiment, vraiment bon. Puis j'espère que ça va être un review vraiment, vraiment prochain des Antipodes. C'est Shawn, je sais pas si tu te rappelles, Shawn Michaels contre Hulk Hogan, SummerSlam.
À Washington?
Je sais pas. Ouais, c'est quand Shawn Michaels
prend des bombes de fou.
Quand Shawn Michaels.
J'étais là.
OK.
J'étais là à Washington.
Ça, ce match-là, je pense que j'ai dû le regarder 1000 fois dans ma vie.
Oh, Shawn t'as exagéré.
S'en calissait.
Oh, qui bumpait.
Fait que juste quelqu'un m'a envoyé ça, j'ai dit, ah, ce serait un bon antipode extrait éventuellement.
Parmi ceux qui étaient aussi au courant, t'avais Vince Russo, qui était le booker.
Ouais, ben lui, il avait pas le choix, là.
Fait qu'il y avait McMahon, Briscoe, Vince Russo, Sergeant Slaughter,
Triple H,
et les frères Hebner. Mais les frères Hebner, Earl, dans le fond, parce que là, bon, on vous raconte ce qui arrive. Brett se fait faire le sharpshooter. Il vient pour aller pogner la jambe de Shawn.
Ouais.
Mais Hebner, pendant ce temps-là, Brett le voit pas, mais il se relève. Il était pas censé se relever. Et il demande pour la cloche. Le gars de la cloche la sonne pas tout de suite parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Puis lui, il est pas au courant. Puis Brett a pas abandonné. Et là, McMahon, il dit « Ring the fucking bell!
Ouais. »
Et là, il sonne la cloche. Et là, Brett, tu le vois, le reach pour
ouais,
le
ouais, il
pour
s'en
le
va
pied.
Pour le reversal.
Ben, c'était ça qui était censé. Ouais. Et là, il réalise ce qui vient de se passer. Mmh. Earl Hebner se l'est fait dire
avant d'embarquer.
Il était au Gorilla. C'est sa job qui est en jeu. S'il le fait pas, il sait qu'il va passer
mais
en même quart
Brett a tout le temps dit qu'il y avait rien contre Earl Hebner.
Oui, non, effectivement. Ouais. Parce qu'il sait, même si Earl lui avait promis sur la tête de ses enfants qu'il se passerait rien.
Ouais.
Dave, il avait avisé Dave Hebner aussi. Parce qu'il a dit, dès que le match va se finir, on envoie ton frère, puis sors-les de Montréal. Il y avait un avion de bouquet. Ils sont même pas restés pour Raw le lendemain, les frères Hebner. Parce qu'on savait
ouais.
que là, il y aurait beaucoup de heat sur Earl. Donc, là, le match, la cloche sonne. C'est le branle-bas de combat. On comprend pas. Moi, je suis là, puis je suis comme, ben, ouais, je sais qu'il se passe quelque chose. Je vois pas, moi, je savais pas de Brett s'en aller.
OK.
Il y a bien du monde qui le savait. Moi, je savais pas. La Gazette n'avait parlé, là. Les journaux l'avaient commencé. Le Toronto Sun n'avait parlé. Moi, je savais pas. J'étais un peu plus mort qu'à ce moment-là. Et, là, ce qui se passe, c'est que Triple H, suite avec Briscoe, rush vers là, puis Briscoe, il est là aussi.
Et puis Triple H se dépêche pour
et là,
se rendre.
Il donne la belt, à Shawn, puis là, Briscoe, il est là, ouais, il grouille-toi. Shawn, il dit à un moment donné, il dit, lève la belt, il se revire, lève la belt comme champion. Puis, ah ouais. Puis là, là, il est.
Puis Sean, il joue le jeu au début. Là, hein. Sean, il est comme assis. Sean, il est comme assis. Bret Hart est debout. Puis il dit à Vince, What happened?
Ouais,
il a essayé de jouer le jeu.
Pendant, ben, pendant longtemps, d'ailleurs, backstage, suite après, Bret, il a dit, puis Sean, il dit, hey, j'étais vraiment pas au courant. Ouais. C'était un mensonge. Il était au courant, ben, bien oui, évidemment. Et Bret, il reste dans le ring, crache dans la face de Vince.
Un bon gros crachot.
Oh oui. Et là, finalement, là, moi, ce que je vais toujours me rappeler, c'est tatoué dans ma tête. Bret qui fait le tour des trois côtés de ring. Avec,
ouais, il fait, WCW.
Il fait dans les airs avec son doigt WCW. Et là, moi, ça, je l'ai compris. Je fais oh shit! Ouais. Bret s'en va à WCW, mais je comprenais pas ce qui venait vraiment de se passer. Tu comprends?
Ouais.
Et ça, tu le vois pas, là, sur le. Si vous écoutez le pay-per-view en ce moment, tu le verrez pas.
Tu le vois après. Sur le network, ça, j'allais dire, ils ont coupé vraiment, vraiment.
Ils ont coupé au moment où le pay-per-view coupe. Mais vous pouvez voir les images parce que les caméras ont continué de tourner. Et là, après ça, ben backstage, évidemment, il y a toute l'affaire où Bret donne un coup de poing à Vince.
Mais en fait, moi, je trouve que Vince, il est très badass, là. Vince, de dire, yo, je te donne un coup de poing.
Ouais, ouais, vas-y.
Comme, take your shot, là.
Vas-y, take
your shot.
Wow! Ouais, je sais. Et là, Vince, et tout ça. Bon, finalement, tout ça s'est amené, parce que l'aftermath de ça, là, c'est que Vince... Il fait une promo, évidemment, Bret n'est plus dans la compagnie, là, on s'entend. Vince, puis la plus belle preuve qu'il se serait pas, il aurait pas pu aller à Nitro le lendemain, c'est que Bret, là, il s'en va pas à Nitro, là, avant la fin décembre. Son contrat était pas fini. Ben, tu comprends? Il s'est pas plus présenté à Nitro le lendemain ou la semaine d'après. Fait que c'est pas vrai que ça serait arrivé. Parce que s'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Là, il vient de se faire screwer. Et là,
c'est vrai que c'est pas vrai.
Et là, Vince, il fait une entrevue avec JR. Et c'est là qu'il sort le fameux Bret Screw Bret. Et Vince, lui, il pense que c'est lui qui va sortir Babyface de ça, là.
Que Vince va sortir Babyface?
Vince, il avait aucune intention d'aller heel. Lui, il pense que c'est Bret le heel parce que c'est lui qui a pas voulu être business.
Mmh.
C'est lui qui a pas voulu perdre la chance. C'est lui qui a pas voulu perdre au Canada. Et c'est pour ça qu'il dit Bret True Bret. Quand Vince fait ça, il pense que c'est Bret qui va être heel puis lui va rester Babyface.
Mmh.
Donc lui, il veut ternir Bret vu qu'il s'en va l'autre bord. Et ça a été complètement l'effet contraire.
Ben, biggest heel of all time.
Et là, ben, il s'est laissé convaincre d'être le Mr. McMahon character qu'on connaît, parce que c'était pas ça qu'il voulait. Il voulait pas être un personnage, là, Vince. Et là, est arrivée la rivalité avec Stone Cold à la fin de l'année 97. Puis là, ben, ça l'a complètement levé. Avant Survivor Series, là, il avait comme il battait pas la WCW comme tu le sais dans le code d'écoute. Leur code d'écoute, il pognait à peine 3.0, là, ça marchait pas en millions à ce moment-là. Et là après Survivor Series, il y a juste une fois qu'ils ont pas fait 3.0 de rating. Wow. Puis après ça, ben ça a été l'ascension vers le reste. Bret a été un peu triste WCW et ils l'ont mal utilisé, comme arbitre pour faire un screw job finish dans Hogan et Sting à Starcade et ensuite ça a été la mort d'Owen, la blessure contre Goldberg, puis bon, finalement, puis ils ont jamais roulé le Canada. Imagine la WCW vient à Montréal avec Bret,
ou à Toronto, ou à Calgary. Ils n'ont pas roulé avec Bret.
Ils ont roulé tard. Ils ont roulé tard au Canada, ils sont jamais venus à Montréal.
Ouais, exact.
Fait que... Au final, ce que j'allais dire, c'est que la WWF, là, elle avait quand même trois des meilleurs workers au monde à ce moment-là. Bret Hart, Shawn Michaels et Steve Austin. Là.
Et Owen.
Ouais, mais Owen n'était pas vu comme un des meilleurs workers au monde à ce moment-là.
Ouais, mais ça l'était pareil.
Et le show a été voté le 7e pay-per-view de l'année. Parce que le pay-per-view comme tel, il était pas bon. On s'entend. Et juste lire quelque chose que Dave Meltzer a écrit. Et tu vas comprendre pourquoi je veux lire ça. Il a écrit... Et ça, il a écrit ça la semaine après, là.
Ouais.
Cet événement sera reconnu comme étant la fin combat la plus connue de l'histoire de la lutte professionnelle moderne. Dans 20 ou 30 ans, cette histoire sera plus vue en direct et sera vue comme légendaire par tous ceux qui en auront entendu parler plus tard. Y étais-tu prophète là-dessus?
Ben,
c'est la fin de match la plus connue de l'histoire de la lutte. Combien de fois que la WWF a voulu reprendre ce finish-là? Impact l'a fait. WCW l'a fait. Puis c'est un des matchs les plus importants de l'histoire de la lutte moderne.
Moi, la seule affaire avec ça, là, c'est que ça l'a inspiré la WWE à tout le temps vouloir faire des screwjobs à Montréal. C'est juste
ben, ça, c'était pas la bonne chose, ça, c'est sûr. Oui, c'est nous, on n'a pas eu de show télévisé à Montréal.
Attends, moi, j'ai mis 4 sur 5 pour le match, je sais pas.
3 et 3 quarts.
OK.
Et il n'y a pas eu de show télévisé à Montréal avant le 16 octobre 2001.
C'est fou.
4 ans plus tard avec un taping de SmackDown.
T'es prêt pour le quiz?
Yes!
OK, première question.
Oui.
Est-ce que tu as checké avant?
Je check jamais avant.
OK. Qui est Box Office numéro 1, novembre 09 97?
Des indices, là. Je veux dire, 97.
Neil Patrick Harris. Il a joué dans ce film-là.
Neil Patrick Harris?
Ouais.
Je sais qui, là, mais. Oui, c'est pas le film avec Ryan Phillippe, puis.
Je connais personne.
OK. Donne-moi. Ben non, je sais pas.
Il n'y a pas d'indice, man.
C'est quoi le film? J'ai pas compris.
Starship Trooper.
Je sais même pas c'est quoi.
Ouais, c'était ça en 97. Est-ce qu'on peut avoir un bip? OK, la chanson numéro 1 en 1997, le 9 novembre.
C'était-tu du Britney Spears?
Non.
C'était-tu du Backstreet Boys?
Non.
C'était-tu du Bon Jovi?
Non.
OK, donne-moi un indice.
C'est un patinet.
Ben oui, mais un patinet.
Hey,
tu me donnais un autre indice?
Ben, ça t'enlève toutes les filles, puis ça t'enlève toutes les pop groupes. Mais n'en passe à un patinet qui était connu vraiment beaucoup dans ce temps-là, en 97, Pat. C'est proche de Noël, là.
Michael Bublé?
Non. Il y a un autre patinet.
Ricky Martin?
Tout fini. Elton John!
Tabarnouche! Avec quoi en 97? C'était quoi son hit?
Il a été 12 semaines straight au top.
C'était quoi la toune?
Candle in the Wind.
Ah oui, c'est vrai. Jean-François Kelly l'aurait eu, c'est un gros fan d'Elton John.
Ah ouais?
Ouais.
Abs face aux Sharks.
Oui.
Match fini 4-3.
Quand?
Pour les Canadiens. La même journée que Survivor Series.
OK.
Qui? Nomme-moi un compteur.
OK, à sa nausée.
À sa nausée.
Oui.
Nomme-moi un compteur pendant ce match-là.
Vincent Lanfousse.
Non, mais t'as deux autres chances.
Mais ça aurait pu être Vincent Lanfousse.
Oui, ça aurait pu.
Mark Recchi.
Il te reste une dernière chance.
Brian Savage.
T'aurais pu me nommer
Oleg Petrov?
Non.
Saku Koivu?
Ouais! Yeah! Non, mais pas ding ding ding, là, il en a nommé 8. Mais t'aurais pu me nommer Koivu, Brisebois, Victor Kozlov, Shane Corson, Oudler, Todd Gill et Martin Ruzynski.
Wow.
Président beaucoup, des États-Unis de en 97.
Hein? Président des États-Unis en 97. En 97, c'était Bill Clinton.
Premier ministre du Canada.
Président du Canada.
Premier ministre du Canada.
Premier ministre du Canada en 97, c'était. Oh, attends, c'est peut-être tricky ça. Mais je vais aller avec Jean Chrétien. Je connais la politique, man.
WCW champion.
Fred est impressionné. Hein?
WCW champion le jour de Survivor Series.
Ah, ben, Hulk Hogan, je suis tombé niaiseux.
Battu par? Ouais.
Ben, il se fait battre par Sting à Starrcade en décembre avec Bret Hart comme arbitre. Voyons, ça, c'est facile.
Hey, arrête de me faire chier parce que... Donne-moi un indice!
Hey, j'ai pas eu d'indice pour que j'entre les 4 dernières questions. Calme-toi.
Les 3 dernières. ECW champion. Là, t'as une chance, là. 97, Pat.
Ben oui, mais 97, calme-toi.
Ben, 97, ECW, il n'a pas 40 champions, là.
Shane Douglas? Ah, c'était qui?
Bam Bigelow.
Ah oui, mais Douglas l'a pas genre...
Battu,
ouais, ouais. OK, bon, j'étais pas loin.
Shane
là.
Douglas était champion. Ouais. Bam Bigelow a battu Shane Douglas. Après ça, Shane Douglas a rebattu.
Ah, ben là,
Bam
Colin,
ben,
c'est quasiment bon.
Non, zéro.
Tu dis en plus, il y en a juste un. Ben,
Non, j'ai pas dit qu'il y en a juste un, j'ai dit qu'il y en a pas 1000.
Ben non.
Ben, dernière question, ouais. Champion New Japan.
Ah, ça, par contre. Kijimoto?
Non!
Donne-moi un indice. Calme-toi, le frère.
Les initiales, c'est KS.
KS Kanzuke Sasaki. Je connais mes initiales.
Bravo, impressionné. Quand impressionné. Ben, c'est tout, c'était ça le coup. C'est ton meilleur coup, Zadat, Pat.
Ben oui, la politique. Faut que t'ailles dans la politique.
Je mets ces deux-là à chaque fois, Pat.
Ben oui.
Puis t'es pas tout le temps.
Non, t'aimais pas. Non, tu m'as jamais donné président des États-Unis. Jamais président des États-Unis, jamais premier ministre du Canada.
Oui, non. Oui.
Puis t'as jeté premier du Québec, puis maire de Montréal, puis m'a les avoir à chaque fois.
Tabarnak, ok, ok.
Hey, box office.
Ok.
Hey, troop shooter regarde, de troupe. Hey.
Premier ministre du Canada / Québec. Après ça, maire Montréal. Puis après ça, c'est quoi tu m'as demandé président des États-Unis?
Bon.
Puis je vais mettre.
Où est-ce qu'on peut nous écouter, Kev?
Député de Hochelaga.
Ça se peut que j'en aille! Ça se peut que j'en aille!
Mais attends, avant de dire ça, on choisit quoi? Pas le prochain?
Ah oui, faut choisir le prochain. Ben oui.
J'aime ça les savoirs d'avance pour que je puisse les finir sur le podcast. Moi, je me prends d'avance, tu sais.
Oui, 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 fait. Oui, exact. Le pire, c'est deux jours après, tu me textes pour me dire, wow, je commence à écouter le show, puis deux semaines après, tu l'as pas fini.
T'as vu comment le show était shit?
Bon, OK, les choix que je te donne.
OK, check. On va faire quelque chose, OK?
Oui.
T'as combien de choix là-dessus?
J'en ai quelques-uns. Pourquoi?
Mais toi, t'en as un à cinq?
J'en ai trois. On va garder ça, trois.
Non, mais mettons, c'est ta liste. T'en as combien?
Je sais pas. Il y en a que j'ai pas effacé.
OK, mais... Parce que Fred va choisir pour son retour.
C'est correct, mais moi, il donnait des options.
Mais non, faut que tu dises... Un, il va nous faire un chiffre. Un à cinq.
Je comprends.
OK, so, en ordre, là... Fred, dis-nous un chiffre d'un à cinq avec tes mains. Trois. Le troisième, c'est ta liste, c'est quoi?
Tu seras pas content.
Oh non, pas l'affaire de 85.
Hein?
C'est quoi?
Non, c'est pas l'affaire du 85. C'est le Raw versus Nitro du 4 janvier 99.
Faut écouter les deux shows?
Faut écouter les deux shows, mais tu te rappelles de ce show-là?
Non.
Non? C'est le show où Mick Foley gagne la belt. Pis que.
Mais pourquoi je serais pas content?
Pis que, ben, je sais pas. Parce qu'il faut écouter deux shows. Pis que Tony Schiavone.
Arrête, moi, je suis hype!
Il donne les réponses.
Ben oui!
Pis là, tout le monde s'en va écouter le match de la WWF. Pis le c'était le même soir du Finger Poke of Doom.
Ouais!
Fait que c'est ça. Faut écouter les deux shows. Raw, Nitro, 4 janvier 99.
Est-ce que je propose de quoi à voix haute? Est-ce que, mettons, toi, t'écoutes WCW? Moi, j'écoute Raw. Puis on se le présente.
Ah, j'haïs pas l'idée.
Puis mettons, on fait nos recherches. Tu m'expliqueras comment tu trouves l'affaire de Meltzer. Là. On fait nos recherches de notre bar, là.
Ouais.
Puis on se le présente.
Ouais, je peux t'envoyer les choses de Meltzer, tout simplement. Là.
Ouais, on se le présente.
J'enverrai les articles. OK, c'est un deal. Mais j'écoute WCW.
Moi, j'écoute Raw.
Ouais, OK, parfait. J'écoute Metro.
Yeah!
Yeah!
Raw du 4 janvier 99.
OK. Hey, on nous écoute comment, Kev?
Spotify, Apple Podcast. Spotify, Apple Podcast.
T'as-tu un bruit pour quelqu'un qui te choque?
Spotify, Apple Podcast. J'ai plus la liste devant moi, là.
Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Cube Radio.
Laissez-nous 5 Star Frog Splash. Achetez le livre de Pat Laprade, La 8e merveille du monde. Shout out à Fred.
Achetez vos billets pour la
non, classique. Non, faites un don parce qu'il arrêtera plus le lundi.
Faites un don, achetez des billets. Écoutez sans restriction. On vous remercie d'avoir été là. En mon nom et au nom de Kevin Raphaël, on vous dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.
Bye, là.